Je vais aborder un sujet un peu dans Éphésiens 2, le verset 1 à 10. On va se promener un peu dans ces versets, mais je vais lire le verset 4 et 5. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Parlant de ce début de chapitre 2, préalablement, l'apôtre avait parlé dans le chapitre 1, l'apôtre Paul avait prié avec action de grâce et demandant à Dieu plus ou moins de donner de la sagesse et de la révélation, d'illuminer le cœur de ceux qui écouteraient ou bien liraient sa lettre. Et vers la fin du chapitre 1, il a en même temps parlé du corps de Christ en bref et notifiant le fait que c'est Christ qui est le chef du corps. Et un peu comme pour lancer déjà un côté et pour exaucer la prière qu'il a faite, il est en train de nommer des choses qui permettront à ceux qui l'écoutent, à ceux qui lisent, de déjà avoir cette révélation qu'il a demandé à Dieu. Et nous voyons déjà dans le verset 1 où il est dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Parlant de la mort, dans ce cas, il est en train de parler, en utilisant le vous, il est en train de parler aux non-juifs qui sont venus à Christ et il expose déjà leur état. Parlons de la mort. La mort, c'est cet état de cette personne qui n'est pas encore chrétien, qui n'a pas encore reçu Christ. Et cela nous montre aussi en même temps que ceux qui n'ont pas Christ aujourd'hui sont encore dans cet état. Mais là, lui, il expose le truc en montrant que avant c'était ça, mais maintenant c'est tellement il y a autre chose. Mais ça nous montre en même temps de savoir d'où nous venons, ce que nous étions, nous sommes sans cité, nous sommes sans connaissance de Dieu, et cela peut nous pousser déjà à une reconnaissance parce que ce n'était pas par nous, la suite nous le dira. Et en même temps, si nous méditons là-dessus, ça peut nous donner ce courage-là d'aller vers d'autres personnes qui n'ont pas Christ parce que eux, ils sont dans cet état d'où nous venons de sortir. Et la suite nous dit, et toujours dans ce verset 1 et 2, lorsqu'il parle de à cause de vos fautes et de vos péchés, c'est l'œuvre, un peu comme c'est non pas comme, mais c'est dit dans Romains 5, 12, c'est les œuvres que cet état-là produit, cet état d'être sans Dieu, c'est des fautes, c'est des péchés. Et parlant de conformément à la façon de vivre de ce monde, ça montre un modèle visible mais extérieur, un monde qui est devant nous, mais c'est un modèle pour cet état d'autrefois que nous avions. Aussi, il parle de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Ça parle aussi de cette continuité de cette œuvre. De cette mauvaise œuvre du diable qui sévit toujours parce qu'il est le prince du monde. Le verset 3, là, il utilise, quand il parlait de vous, dans le verset 1, le verset 3, il parle de nous tous aussi. Nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissons la volonté de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Ici, il parle un peu des, il parle des Juifs, des gens qui, quelque part, connaissent déjà Dieu, en quelque sorte, où c'est le peuple que Dieu a choisi sur la terre pour révéler et qui il est d'une certaine manière. Et les mêmes schémas se font voir encore, mais différemment. Il parle de notre conduite qui n'est autre que de mauvaises œuvres, des actions dictées par les désirs de notre propre nature. Donc ça, c'est le modèle du vieil homme qui est toujours là, quoique nous sommes chrétiens, quoique nous connaissons Christ, le vieil homme est toujours là et il veut toujours se montrer, il veut toujours s'affirmer, il veut toujours se mettre en premier lieu. Lorsque nous voyons ces deux aspects, les deux premiers versets parlent plus ou moins, parlent un peu de ce que nous étions avant de connaître Christ. Ça veut dire que c'est de l'extérieur et ça nous conduit, ça vient de l'extérieur pour nous entraîner dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Et c'est en cela que Christ est venu et nous a sauvés. Et le verset 2, il parle plus de la nature pécheresse. Ça montre plutôt quelque chose qui vient qui est de dedans de nous, le vieil homme, qui se montre parce qu'il a parlé de notre nature propre, puisque nous accomplissons les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Dans le verset 1 à 3, le tableau qui est peint montre que nous n'avons aucune chance, nous n'avons aucune possibilité d'aller vers Dieu, nous n'avons aucune possibilité de bénéficier de quelque chose de Dieu. Et c'est un tableau tellement sombre que heureusement qu'il y a le verset 4 qui parle de « Mais Dieu est riche en compassion ». C'est une proposition faite comme ça, ce n'est pas parce que nous aurions fait quelque chose que Dieu serait riche en compassion, ce n'est pas même pas parce que nous sommes convertis et que nous tendons vers une sorte d'une sanctification ou que nous rentrons dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous à l'avance, la suite nous le dira, que Dieu est riche en compassion. C'est sa nature, il est riche en compassion. Lorsque nous étions encore morts, lorsque nous étions encore sans connaissance de Dieu, lorsque nous sommes éloignés, nous sommes sans cité, Dieu, dans la richesse de sa compassion, la suite nous dit, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le verset 5 et le verset 6 nous dit, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. Le verset 4 à 6 nous montre ce que Dieu a fait malgré notre état et même malgré ce que nous vivons aujourd'hui. Si nous connaissons Dieu, nous tombons souvent en pensée, en action. C'est pour cela, quelque part, Paul dit, soyez renouvelés dans votre pensée ou dans votre manière de penser, parce que c'est de dedans que ça sort, ou bien c'est, et lorsque la pensée est bien aiguisée, lorsque la pensée a le bon repère, les actions peuvent suivre mieux. Et du verset 1 au verset 7, dans la version grecque, c'est une longue phrase qui n'a que pour sujet grammatical Dieu, et le complément c'est nous, le nous non-juif et juif. Parce que là, l'apôtre est en train de parler du mystère du corps de Christ, qui a été dit déjà dans le dernier verset du chapitre 1. Mais là, il est en train de montrer le fait que les juifs et les non-juifs sont devenus un dans un seul corps. Donc Christ est la tête. Et les trois verbes principaux qui ont été utilisés dans la version grecque avant que une traduction française nous donne tout ce qu'il y a, c'est a rendu vivant avec, a ressuscité ensemble et a fait asseoir ensemble. Donc ça montre que Dieu, le sujet, nous, le complément, et tous ces verbes ou tous ces verbes principaux pour montrer que Dieu, il fait quelque chose sur nous. Complément qui subissons ce que Dieu a fait. Et dans le verset 5, la deuxième partie du verset 5, il a dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça veut dire que, vu notre état, même si on se convertit après, nous n'avons pas cette possibilité d'aller vers Dieu. Nous n'avons pas cette possibilité d'aimer les choses de Dieu. Seul Dieu même peut déverser son amour en nous pour que nous, en retour, on puisse aimer parce que on n'a pas ça dans notre nature en tant qu'humain. Le verset 7 nous dit, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Souvent lorsque, bon, nous sommes en Christ, nous n'avons pas toute la vision que Dieu a lorsqu'il nous appelle un jour, lorsqu'il nous convainc de péché, de jugement un jour, et que nous donnons notre vie et que nous disons, oui, Dieu, tu as raison sur tout ce que tu as dit à propos de ma vie. Je m'abandonne en tes mains. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Je me laisse à toi. Nous avons juste l'impression que lorsque Dieu fait ça, c'est le fait que le dimanche je vais à l'église, ou peut-être que j'ai même une moralité, une bonne moralité. Genre, je ne vole pas, je suis chrétien, mais Dieu a un plan grandiose et le verset 7 nous dit que il a fait cela, il a fait tout cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une espérance. Nous avons quelque chose devant nous qui va nous ébahir, qui va nous surprendre agréablement, qui nous dépasse, qu'on ne peut pas comprendre. Ce n'est pas seulement cette vie. Donc, aujourd'hui, si je traverse quelques difficultés, aujourd'hui, si j'ai quelques biens matériels, si j'ai des frères, des sœurs à côté, ce n'est pas que ça. C'est, il y a quelque chose encore. Il y a quelque chose de grandiose. Et Dieu est en train de dérouler tout le plan progressivement. Et dans les temps futurs, on comprendra, on saisira un peu ce qu'il en est. Il en est même de même pour lorsque nous nous convertissons, nous venons à Christ, nous avons une connaissance précise. Et lorsque nous continuons à étudier, à écouter la parole, à nous imprégner, à nous soumettre à la parole, nous rentrons dans une connaissance plus approfondie de ce que Dieu fait. Donc, nous avons de l'espérance. Lorsqu'il parle de, un peu dans les versets 1 et autres, il y a l'idée, lorsqu'il parle de conformément au prince de l'air, ça c'est aussi l'idée de cette puissance qui gouverne les choses. Mais Dieu, lui, nous a appelés pour que nous soyons sous son autorité, comme l'est dit dans le dernier verset du chapitre 1. Que Christ soit le chef et que nous soyons soumis à Christ. Donc, vu notre état, comme c'était dit dans le verset 1, notre état qui était la mort, là nous sommes en Christ, notre état devient la vie et nos œuvres, toutefois pas des choses que nous faisons dans l'énergie de la chair, mais les œuvres qui ne sont rien d'autre que les conséquences de cette nouvelle nature que nous avons, ces œuvres vont glorifier Dieu. Donc c'est un peu le même processus quand on était de l'autre côté, quand on était dans notre avant-chrétien, on avait un état, on a des œuvres, on a une puissance et tout s'achemine. De la même manière, nous sommes devenus vivants en Christ, nous avons un état, nous avons des bonnes œuvres et l'autorité maintenant, c'est Dieu, c'est Christ qui nous conduit. Je vais lire le verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et là, lorsque je disais ce côté, je me suis rappelé un peu d'une illustration que notre pasteur a fait dans un cours. Et parlant de même notre foi, ce n'est pas parce que j'ai une grande foi ou une petite foi. Ça ne se situe pas là-bas. Si il a donné l'exemple de comment un lac de glace. Si j'arrive à marcher sur le lac de glace, le traversant, ce n'est pas parce que j'ai une grande foi ou une petite foi, c'est parce que la glace est solide. Donc même notre foi, c'est-à-dire nous ne pouvons pas dire que c'est parce que nous avons une foi que la chose se fait. C'est Dieu qui fait tout. Et l'autre illustration qui m'a aussi parlé un peu dans le même sillage, c'est lorsque les Israélites traversaient la mer Rouge, certainement il y en a qui avaient peur, qui pouvaient trembler. Oh là, est-ce que l'eau ne va pas nous se renfermer sur nous? Mais ce n'était pas eux qui avaient foi, certains ont la foi certainement, mais c'est Dieu qui fait la chose, c'est pas nous. Même là, c'est Dieu, même notre foi que nous plaçons, c'est Dieu qui fait quelque chose et que ça donne un résultat. Le verset 9, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Ce n'est pas par les œuvres. Là, se vanter, l'une des explications qui m'a un peu touché, c'est se vanter, c'est se faire confiance. Or, nous savons que nous ne pouvons jamais faire confiance à l'humain, à la chair. La chair étant, je vais dire, sur nous, est en complicité avec le diable et le monde. Donc, on ne peut même pas faire confiance à la chair parce que cette chair, cette chair, si nous ne le clouons pas à la croix, si nous ne le faisons pas mourir, il va toujours sortir, il va toujours vouloir s'affirmer. Et lorsque lui s'affirme, ça nous éloigne de Dieu ou nous posons des actes qui n'honorent pas Dieu. Donc là, il est dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Personne ne peut se vanter. Ça veut dire que Dieu a tout fait. Que ce soit même dans notre foi. C'est pour cela que j'ai parlé un peu de même la foi que nous plaçons. Nous le plaçons en Dieu. Notre foi en elle-même ne change pas tout. C'est une décision. C'est une confiance que nous mettons en Dieu. Nous levons la main, nous disons, Dieu, tu as raison sur toute la ligne. Donc, ce que tu veux, on rentre dedans. C'est ce que nous avons fait, juste ça. Et le verset 10 dit, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les œuvres ici, ce n'est juste que le fruit de cette nouvelle naissance, de cette nouvelle créature que nous sommes, comme le dit dans 2 Corinthiens 5, 17. C'est-à-dire que nous avons un état, donc loin de Dieu, donc notre état mort donnait de mauvais fruits. Maintenant, nous sommes en Christ seulement, que nous sommes en Christ et nous portons des fruits, mais ces fruits, c'est le fait que nous avons cette nouvelle nature, que les fruits ne sont que la conséquence logique de notre nouvelle nature. Pour terminer, je dirais qu'importe ce que nous pouvons faire ou nous ne pouvons pas faire, c'est Dieu qui œuvre. Dieu a créé le monde, Dieu a créé les humains et il a voulu qu'ils soient en relation avec lui, que nous soyons en relation avec lui. Nous avons péché et nous étions éloignés et nous sommes mis sous une autre autorité. Mais dans son amour, dans sa bonté, dans la richesse de cette bonté, il a encore pourvu au sacrifice qui a permis que nous renouons une relation avec lui. Et tout ça montre que l'humain n'a rien fait. Nous n'avons rien fait pour bénéficier de ça. C'est la grâce de Dieu, c'est dans sa bonté. Et À chaque fois, lorsque nous traversons une situation, c'est vrai que la suite d'Éphésiens parlera de pratique, mais déjà ce côté théologique, théorique, mais théologique, nous donne déjà quelque chose pour que nous puissions vivre. Parce que lorsque nous avons notre entendement bien nourri, nos comportements, les œuvres qui en découlent, peuvent être des bonnes œuvres, pas pour prétendre à quelque chose, pas pour avoir le salut, mais une conséquence logique de ce que Dieu, Christ a fait pour nous. Que Dieu vous bénisse.